prépare un dossier en vue de l'obtention d'un permis du CRTC dans le but de créer une station de radio. Le permis est accordé. 15 février 1973, CKRL 89.1 émet pour la première fois à 17h. Point de départ de ce qui deviendra une aventure d'une richesse inégalée. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Les samedis, minuit, partez sur l'autoroute aux côtés de Stéphane Villeneuve et sa musique rock et progressive des années 1970 et 80.
CKRL 89.1.
Ici Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL, l'émission 7e ciel qui a lieu en saison régulière de 16h à 17h30 pour l'été, version culotte courte de midi à 13h. On resserre un peu le propos et on parle aujourd'hui en particulier d'actualité du cinéma en compagnie de quelqu'un que vous connaissez bien sans doute, fidèles auditeurs de CKRL, Jean-Denis Côté, qui va venir nous parler dans ce premier quart d'heure de l'émission de quelques films qui sont présentement à l'affiche ou qui viennent tout juste de sortir en DVD. Donc on se permet en toute bonhomie de se parler ensemble de ces films et c'est un plaisir de recevoir Jean-Denis à l'émission. Salut Jean-Denis.
Merci de m'accueillir dans votre émission, Guillaume Lafleur.
Toujours un plaisir.
Alors, j'ai vu tout récemment Les femmes du sixième étage. Je dois avouer que j'ai un préjugé extrêmement favorable envers Fabrice Luchini et il ne m'a pas déçu.
Ah là là, écoute, Fabrice Luchini, ce trublion, cet histrion du cinéma français, performeur, qu'a-t-il concocté comme personnage dans ce film?
Il est tout simplement parfait dans ce rôle d'agent de change. Alors, il investit l'argent de sommes importantes de différentes personnes. C'est un homme de droite, un homme dont la vie est extrêmement rangée. C'est un père de famille plutôt coincé. Et justement, ce qui est de fascinant dans ce film, c'est d'assister à l'évolution de ce personnage-là, joué admirablement par Luchini, qui se rend compte de la platitude de son quotidien. Et cette prise de conscience-là va se faire grâce à sa femme de ménage. Son ancienne femme de ménage a quitté. Elle ne s'entendait plus avec son épouse. Son épouse engage une très jeune femme de ménage, Maria Gonzalez, qui est jouée par Natalia Verbeke. Elle est pétillante, elle est rayonnante. Cette actrice-là, le plus beau sourire du monde, c'est vraiment, quand on la voit sourire, c'est le sourire de la sincérité. C'est sans doute la raison pour laquelle on est séduit lorsqu'on la voit, lorsqu'on l'entend. Bien sûr, il y a l'accent en plus qui ajoute au charme. Et Luchini, dans le rôle de Joubert, va être tout à fait charmé par cette femme-là. Et il va y avoir un différend important avec son épouse et il va décider d'aller habiter au sixième étage, à l'étage en fait des bonnes, parce qu'il y a une chambre de débarras qui est libre et il va retrouver sa liberté. Alors, je ne vais pas tout révéler du film, j'en ai déjà dit beaucoup. Il y a énormément d'humour, mais c'est un humour fin, recherché. Les actrices qui jouent les rôles des bonnes sont toutes bonnes, crédibles. Et je dirais qu'il y a 15% du film qui est en espagnol et sans sous-titres. Et ça, c'est audacieux. Et en même temps, moi qui ne comprends pas l'espagnol, je parvenais à comprendre ce qui se passait, ce qui se disait pour l'essentiel. Et on est touché par la joie de vivre de ces femmes de ménage-là. Et c'est ce que le personnage joué par Lucchini découvre, c'est que ces femmes-là sont vivantes, elles mordent dans la vie. Et lui se rend compte, justement, comme j'ai mentionné au début de ma critique, de la platitude de la sienne. Évidemment, ça va créer un choc dans sa propre famille, mais il va rester fidèle à ses nouvelles convictions. C'est vraiment un film à voir. Moi, je serais pas du tout surpris de constater au cours des prochaines semaines un succès en salle pour ce film-là. Même Odile Tremblay, dans Le Devoir d'aujourd'hui, que je vous invite à lire, même Odile Tremblay, qui a l'habitude d'être dur dans ses critiques de cinéma, il va d'une critique quand même très, très, très positive pour une comédie relativement légère. Alors, Les femmes du sixième étage, c'est un film de Philippe Leguet, donc avec Fabrice Lucchini, Nathalie Verbecke et Sandrine Kiberlin. Sandrine Kiberlin qui est connue comme actrice, connue comme chanteuse aussi, mm-hmm. là dans le rôle de la femme de droite qui a une vie très monotone et extrêmement rangée. Elle est d'une crédibilité parfaite et les deux acteurs, on voit que les deux acteurs sont expérimentés, talentueux. Tous les punchs nous sont livrés d'une façon parfaite. C'est vraiment un petit bijou de film, je conseille à tout le monde.
Ouais, écoute, Jean-Denis, à t'entendre, je suppose déjà que les auditeurs s'apprêtent à prendre le bus ou leur voiture pour se rendre au club pour aller voir ce film. Mais ça me rappelle toute une trame du cinéma français qui, sur le plan de la fiction, qui est assez... Qui est assez stimulante, je pense, depuis même des films comme Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert, où on voit des personnages qui décident de rompre avec leurs habitudes, de se laisser aller à vivre, même peut-être un film comme Les petits ruisseaux de Pascal Rabaté, je ne sais pas si tu as vu, qui était à l'affiche plus tôt cette année, un film qui mettait en scène un personnage vieillissant qui décide de ne pas se laisser abattre par le fait que son corps peu à peu le lâche. Là. Et ça donne au simple plaisir de vivre en contradiction avec le mode de vie qu'il avait adopté pendant une bonne partie de son existence. Donc j'ai l'impression qu'il y a toute une trame très, très stimulante, un peu irrévérencieuse du cinéma français qui consiste à montrer le portrait de personnages qui décident tout simplement de rompre avec leurs habitudes et avec une tradition dans les mœurs. Qui finalement est simplement bénéfique pour eux. C'est presque une sorte de cinéma moraliste avec des personnages qui décident de faire des choix qui ne correspondent pas nécessairement à la morale ambiante en même temps.
C'est ça, et en même temps...
Pas nécessairement politically correct non plus.
Non, ouais. Non. Mais comme c'est présenté sous le couvert de l'humour, ça passe tellement bien. Et justement, le message passe peut-être encore mieux parce que justement, c'est pas présenté sous la forme du drame. Mm-hmm. Et je pense que c'est là la grande force de Philippe Leguet parce que justement, son message passe parfaitement. Et j'aimerais ajouter un aspect concernant le film, en fait, à tout le moins son visionnement. Je l'ai vu en avant-première et chose rare au cinéma, un peu exceptionnelle, les gens ont applaudi à la fin de la présentation du visionnement. Ça, c'est parce que, bon, au théâtre, c'est plus régulier, oui. Mais au cinéma, et là, il n'y avait personne.
Il n'y avait pas d'invité.
Mais non, il n'y avait pas d'invité. Spontanément, c'est venu d'un bloc, les gens se sont mis à applaudir tellement ils étaient ravis de ce film-là. Les femmes du sixième étage, un petit bijou de film. Faites-vous plaisir, allez le voir.
C'est noté, Jean-Denis, et j'étais très surpris tout à l'heure avant d'entrer en studio de voir la liste de films dont va nous parler Jean-Denis. J'étais au courant qu'on allait parler un peu des femmes du sixième étage. Mais je ne savais pas qu'aujourd'hui, au 7e ciel, il serait question d'un film dont je laisse le soin à Jean-Denis de donner le titre.
Kung Fu Panda 2. Et alors, oui. Écoutez, François Lévesque, dans Le Devoir, m'a agréablement surpris. Il a commencé sa critique parce qu'il a fait la critique de ce film-là. Il disait... Les gens pourront retrouver sur le site du Devoir. Il disait que les seconds films, les suites, sont rarement meilleurs que l'original. Et parmi ces exceptions-là, on peut nommer Le Parrain 2. Et il nommait quelques films comme ça, quelques grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et il disait, à cette liste non exhaustive, il faudra maintenant rajouter... Kung Fu Panda 2. Alors, c'est un film d'animation pour toute la famille. Et... Moi, je n'avais pas vu le premier. J'ai entendu parler de son succès commercial. J'ai entendu parler, évidemment, de son humour. Mais on a reproché, notamment au premier, que l'humour se limitait beaucoup au poids de Po, le panda, le personnage principal. Bon, beaucoup de blagues tournaient autour de ça. À un moment donné, ça devient répétitif et...
Un peu trop facile.
Là, c'est plus du tout le cas. Les blagues sont variées et il y a beaucoup de clins d'œil aux adultes. C'est pour ça que je parle de films, non pas de films pour enfants, mais de films pour toute la famille. Je dirais qu'il y a eu une amélioration vraiment spectaculaire pour ce qui est des films en 3D d'une part et des films d'animation d'autre part. On pense vraiment aux adultes lorsqu'on pense à toute la famille. Je pense à Toy Story 3, Jouet 3, qui avait été une petite réussite aussi sur ce plan-là. Dans Kung Fu Panda 2, il y a notamment un clin d'œil à Pac-Man, il y a un clin d'œil à Donkey Kong, il y a vraiment beaucoup d'humour. Et la réalisatrice du film a eu le génie, à un moment donné, de nous présenter le... Et là, c'est un film d'animation, donc on a le choix, hein? Alors, de nous présenter le héros qui est au sommet d'une maison, mais en contre-plongée. Et comme le héros n'a pas de haut-parleur, il fait des menaces, mais on n'entend rien.
Ah ouais.
Ça tombe complètement à plat. Alors, c'est l'hilarité dans la salle. Mmh. Et là, lorsqu'on revient au premier plan pour montrer le héros, il a un chapeau en métal et là, il dit « disque destructeur ». Et là, il le lance comme un super-héros le ferait. Et le disque tombe tout bonnement et ne détruit absolument rien. C'est l'hilarité dans la salle. C'est vraiment très, très drôle. Mais le film ne se limite pas à... cet humour. Il y a un thème qui est très, très délicat et j'ai été agréablement surpris de voir la façon dont on le traitait dans ce film-là, le thème de l'adoption.
Ah bon?
Alors, oui, et j'ai envie d'en rajouter, mon cher Guillaume, parce que moi, je suis allé voir le film avec... Quand je vais voir des films pour toute la famille, j'essaie toujours d'y aller avec des amis qui ont des enfants, pour question d'avoir leur point de vue. J'y suis allé avec un petit garçon de 6 ans, une petite fille âgée de 9 ans et leur papa respectif. Et la petite fille âgée de 9 ans est d'origine chinoise. Elle a été adoptée. Et le thème de l'adoption, justement, qui est si délicat, est vraiment dédramatisé dans le film, dans la mesure où Po, le panda, se rend compte qu'il a été adopté par un genre. Donc, le genre, appelons-le, c'est le masculin de loi. Mm-hmm. Donc, évidemment, lorsque le tigre lui demande « comment tu t'en es rendu compte? », là, évidemment, tout le monde s'écroule de rire parce que les deux animaux étant si différents l'un de l'autre, c'est d'une évidence telle. Alors, oui. Ça vient dédramatiser justement ce thème qui est pourtant si délicat. Et j'ai discuté avec la jeune fille avec laquelle je suis allé voir le film. Et pour elle, ce qui était important dans le film, au-delà de l'humour, c'était le fait que le héros principal recherchait ses origines. Mmh. Alors, un film d'une certaine profondeur, avec beaucoup d'humour, des effets 3D bien placés, bien présentés, sans être trop envahissant. Je l'ai vu au Cinéplex Odéon, mais il est également présenté au cinéma des Galeries de la Capitale. Moi, je l'ai tellement aimé que j'y retourne cet après-midi. Je vais retourner voir le film. J'ai trouvé, c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu. Et François Lévesque du Devoir en a pensé beaucoup de bien aussi. Alors, une sortie à faire en famille où souvent on se dit, bon, j'aimerais rendre service à mes amis qui ont des enfants, mais je sais pas trop quoi faire. Ben, quand on n'a pas d'argent puis qu'on peut pas offrir de gros cadeaux, ben, on peut toujours offrir de les garder ou de les amener au cinéma. Et question de libérer les parents en quelque sorte, ça serait une belle sortie à faire. Mmh. Une très, très belle sortie à faire. Kung Fu Panda 2. Alors, moi, j'y retourne, c'est vous dire à quel point je l'ai apprécié.
Oui, très bien, Jean-Denis. En fait, je crois comprendre que tes commentaires, comme ceux de François Lévesque, indiquent d'une part que Kung Fu Panda est un film qui s'adresse à un large public pour toute la famille, mais qui n'est pas nécessairement à mettre en opposition avec, disons, des envies de cinéphile qui se met en état de détente, de disponibilité. Si Lévesque compare ça au Parrain 2 dans un sens positif, il faut le prendre pas nécessairement au premier degré, mais peut-être pas loin, parce que c'est vrai qu'il y a un phénomène actuel dans le cinéma d'animation qui est très intéressant, en fait, où tout à coup, il y a une volonté assez rare dans le cinéma en général de joindre une proposition toute simple de cinéma populaire avec une dimension spectaculaire, un côté truculent qui fait en sorte que ça suscite l'adhésion des jeunes comme des moins jeunes. De l'autre côté, justement pour un public un peu plus pointu ou attentif, il y a aussi d'une part, peut-être, j'ai pas vu le Kung Fu Panda 2, mais d'une part, des fois même une réflexion sur le médium, parce qu'on sait que le médium cinématographique, parce qu'on sait que les films d'animation, souvent qui font usage du 3D, qui sont très bien faits, très intelligents, comme Toy Story 2, sont aussi en train d'inventer, à partir des nouvelles technologies, une manière de narrer une histoire. Et parfois, ce travail d'invention implique aussi une sorte de critique ou de second degré de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement un cinéma naïf et un cinéma spectaculaire pour être spectaculaire. C'est assez surprenant d'ailleurs de voir à quel point, peu à peu, les critiques de cinéma un peu exigeants intègrent dans leur réflexion sur le cinéma d'aujourd'hui des références au cinéma d'animation le plus populaire. Le meilleur exemple de ça, c'est une émission que j'écoutais à France Culture la semaine dernière, qui était une table ronde sur les résultats cannois, en fait, du Festival de Cannes. Puis il y avait des critiques du Monde, de Libération, je crois, puis en tout cas quelques médias français, Télérama. Puis un des critiques a eu l'envie de comparer le film Tree of Life de Terrence Malick, qui a gagné donc la Palme d'Or, avec Toy Story 3, ce qui avait suscité l'hilarité de la salle. Puis après, il a commencé à argumenter pour montrer que c'était pas tout à fait une blague. Donc, on s'amuse bien en voyant ces films, puis en même temps, c'est un témoignage intéressant d'un certain état des lieux du cinéma où l'inventivité se retrouve pas nécessairement là où on s'y attend, la création.
Etc. Moi, je dois reconnaître qu'il y a une progression spectaculaire concernant les films 3D. Je dois avouer que lorsque je suis allé voir les tout premiers, j'étais tellement déçu. L'effet 3D était spectaculaire, oui, mais les scénarios étaient d'une faiblesse. Mm-hmm. Ça en était pathétique, vraiment. Et ça coûtait une petite fortune aussi pour aller voir des films en 3D. Ça n'avait aucun sens. Là, maintenant, il y a plusieurs cinémas qui se sont dotés de cette technologie-là, dont le cinéma des Galeries de la Capitale. Pas juste IMAX, hein. Je rappelle qu'il y a deux cinémas aux Galeries de la Capitale. Il y a IMAX, bien sûr, qui est très connu, mais il y a également le cinéma des Galeries de la Capitale, qui est juste à côté de la Foire alimentaire. Et ça nous permet justement, on a de plus en plus accès à des films 3D qui sont de grande qualité. Et quand on peut y aller avec des enfants puis passer un bon moment, c'est encore plus agréable.
Oui, et on a encore un peu de temps pour que tu nous dises quelques mots sur deux autres films que tu viens d'indiquer, là, sur la liste que tu as laissée
à
la disposition.
J'ai oublié de te dire, c'est sorti en DVD avec Omar Sharif et Émilie Duquesne. Alors, c'est l'histoire de Marie, qui est une jeune fille de 25 ans qui a pas vraiment d'avenir, qui rencontre Jaume, un vieux monsieur qui est ancien champion cycliste, évidemment, qui est joué par Omar Sharif, qui est devenu artiste peintre. Et puis, il va se développer une grande amitié entre les deux, en dépit du fait que le personnage joué par Omar Sharif soit très farouche soit plutôt centré sur lui-même, mais il est aussi conscient qu'il vieillit et que la maladie d'Alzheimer est en train de le gagner. Donc, c'est un film, l'idée du film était très bonne et les acteurs, dans ce qu'ils ont incarné, sont bons, mais le rythme, à mon point de vue, est beaucoup trop lent, d'une lenteur qui fait qu'on s'ennuie malheureusement. C'est dommage parce que l'idée était bonne et les acteurs sont très talentueux, ce qui fait que ça dure 116 minutes et moi je pense qu'on aurait pu le resserrer facilement. C'est un film, on a un peu passé à côté là à cause de ça. Je comprends d'ailleurs mal que au sein d'une équipe de cinéma, il n'y a pas quelqu'un qui ait dit, mais faut croire qu'il y a, c'est là toujours la réalisatrice ou le réalisateur qui décide, là. On n'a pas dit, bon, ben là, écoute, il faut resserrer un peu. Et l'autre défaut de j'ai oublié de te dire, sorti en DVD, c'est que c'est, à mon point de vue, archi prévisible. Mm-hmm. Tout est prévisible. Alors, un beau jeu d'acteur, Omar Sharif qui rend bien compte du personnage qu'il a à rendre, justement, mais trop long, trop lent. Et à voir seulement si tous les autres films ne sont pas disponibles à votre club vidéo.
D'accord. Ben, il y a aussi donc le casting qui pourrait justifier le fait de voir le film. Donc, Omar Sharif, acteur mythique, et puis également Émilie Duquesne qui a été découverte il y a quelques années dans Rosetta des Frères Dardenne, une nature, disons.
C'est ça. Et moi, j'avais un préjugé extrêmement favorable lorsque j'ai commencé le visionnement du film sur DVD. Et c'est dire l'état de ma déception, justement, parce que on tourne en rond. Et comme je mentionnais, malheureusement, tout est prévisible, trop prévisible pour quelqu'un qui a vu quelques films. Alors, un peu une déception.
Oui, allons-y avec un peu plus de tonus, peut-être.
oui. Je vais terminer avec un film que j'ai vu récemment, qui est toujours présenté au grand écran. Thor, écoutez, j'avais été très déçu par... Alors, évidemment, on raconte l'histoire de ce super-héros Marvel qui a vraiment connu une renaissance, la compagnie Marvel qui allait très mal il y a quelques années. Et c'est grâce au cinéma, hein, c'est le cinéma qui a sauvé Marvel, faut vraiment le dire.
Exactement, il y a plusieurs années, il y a eu des négociations assez incroyables, je pense énormes, là, pour ce qui est des questions de droit entre Marvel et un major en particulier, là, je ne me souviens plus lequel, puis DC Comics a fait un peu la même chose dans la même période. Donc on subit en fait toutes ces négociations comme spectateur de blockbuster, surtout l'été.
Alors, Thor et
le film de super-héros.
Ben oui, qui sort dessus. On a eu Spider-Man, évidemment, qui était populaire. Moi, j'avais été extrêmement déçu par Daredevil. Extrêmement déçu.
Ah, oui.
Un personnage beaucoup trop sombre, beaucoup plus sombre que celui que l'on avait dans les comics de mon enfance. J'ai pas reconnu le héros que j'avais lu et dont j'avais les numéros 1, 2 à 37, 38, tous d'affilée sans en manquer un seul. Alors, c'est vous dire à quel point je l'avais lu beaucoup. Là, Thor, au contraire, je l'avais peu lu. C'était pas un super-héros qui m'était attachant. Et dans ce film-là, dans lequel on retrouve la délicieuse Natalie Portman, j'ai été absolument séduit.
Natalie Portman joue dans Thor.
Oui. Je suis...
Tu viens d'ajouter un argument.
Un argument...
particulièrement pertinent.
Particulièrement
pour
pertinent.
Voir ce film.
Elle est absolument craquante, délicieuse. Elle incarne parfaitement son personnage. Et cet humour ironique qui a caractérisé si longtemps les comics de Marvel dans Spider-Man, bien, on le retrouve dans le film de Thor. Et moi, je pense que ça y joue pour beaucoup là sur le succès du film. Donc, si vous avez aimé les comics américains que vous avez lus dans votre enfance et que vous voulez retrouver cet esprit-là, Thor apparaît tout à fait approprié. J'aimerais toutefois mentionner que pour ce film-là, même si on parle de super-héros, c'est quand même déconseillé aux très jeunes enfants. Donc, j'irais pas le voir avec un enfant de 5 ans, par exemple, de 4, 5 ou 6 ans. Même si on parle de super-héros, parce qu'il y a des scènes quand même assez dures. Mm-hmm. Et ceux qui incarnent le rôle de méchant, entre guillemets, sont assez laids et assez impressionnants. Donc, il y a des aspects du film qui sont quand même plutôt sombres. Donc, qui pourraient faire peur, en fait, aux très, très jeunes enfants.
D'accord.
Donc, peut-être une petite mise en garde là, par rapport à ça, parce que quand on pense super-héros, on a tendance à penser enfant. C'est pas nécessairement le cas ici. Et Natalie Portman est merveilleuse dans
D'accord.
ce film.
Donc, à titre de spectateur, on peut se dire que dans ce film, notre cœur balance entre des monstres et Natalie Portman.
Je ne vous contredirai pas, Guillaume.
D'accord. Ben, merci, Jean-Denis, d'avoir fait un peu le topo des films récents qui sont en salle, encore en salle. Dans le cas de 3 sur 4. Et d'ailleurs, celui qui n'est pas en salle n'est pas spécialement conseillé par notre chroniqueur aujourd'hui. Donc, Les Femmes du sixième étage, Kung Fu Panda 2 pour toute la famille et Thor presque pour toute la famille. Des films que vous pouvez aller voir et on se reparle bientôt d'actualité cinématographique. Merci Jean-Denis.
Merci de m'avoir invité.
Thank you. les chameaux, les gens sur la lune errante. Là, c'est balançant. Le rythme royal, mes charmes et ma peine. Volant, je déballe.
Présentement en compagnie de Marie-Hélène des voyages Solange Goulet avec une nouvelle, ma foi, des plus intéressantes.
Alors oui, certainement, je vais vous parler d'un très beau voyage que nous avons monté, la magie de l'Italie. Alors c'est un circuit de 15 jours, 13 nuits qui nous fera visiter Venise, la région des lacs. Nous allons au Cinque Terre, à Florence, à Rome, à Pompéi, au Cinque Terre, Nous revenons ensuite pour reprendre notre vol de Rome. Tout ça, incluant deux repas par jour. Alors, le tarif est très intéressant à 3 799 $ par personne. Pour nous rejoindre, vous composez le 681-1456 Voyage Solange Coulet. Merci!
Merci!
Depuis maintenant 20 ans, le bistro-bar Quartier de Lune, situé au 799 Avenue Cartier, est l'endroit idéal pour se réunir, s'amuser et rencontrer des gens. Que ce soit le 5 à 7 avec buffet, pour jouer au billard ou pour danser, vous trouverez toujours la même équipe chaleureuse et dynamique pour vous servir et vous divertir. Pour information, 523-4011 ou quartierdelune.com.
C'est KRL
On vient tout juste d'entendre Brigitte Fontaine et Christophe en duo pour la reprise de la chanson Hollywood, une des chansons phares de l'album du grand retour de Brigitte Fontaine dans l'activité artistique de la chanson au début des années 90, lorsqu'elle a été soutenue par une bande de fans japonais qui voulaient qu'elle revienne au devant de la scène. Brigitte Fontaine, qui auparavant était surtout connue comme figure centrale de ce qu'on a pu appeler jusqu'à un certain point l'underground musical et chansonnier français. Elle était l'une des principales instigatrices et figures de ce milieu qui, à certains moments, et en particulier au début, au début des années 70, se résumait pratiquement à elle ou à Reski, son compagnon de route, qui est toujours co-réalisateur de cet album. En fait, c'est une chanson Hollywood reprise avec Brigitte Fontaine et Christophe sur L'un n'empêche pas l'autre, un album de duo, donc tout à fait dans la vague des albums de duo. Cependant, on sort un peu des sentiers battus puisqu'il y a aussi des inédits sur cet album et les duos ne sont pas banals, en particulier parce que les chansons de Brigitte Fontaine sont largement inspirées de surréalisme ou d'une certaine sensibilité politique à rebrousse-poil de l'époque qui fait en sorte que le ton ne peut pas être tout à fait en accord avec le principe de cette mode des albums de duo. Je le conseille vivement. Super beau disque. Donc Christophe, Jacques Higelin, Arnaud, Grace Jones, qu'on a entendu juste avant la pause, chanter un duo, la sémillante Grace Jones en duo avec Brigitte Fontaine, qui l'eût cru. Elle l'avait déjà tenter ça sur l'album précédent, Prohibition. Cette fois-ci, Grace Jones est de retour sur cet album en reprenant la pièce Caravane, qui était déjà, d'une certaine façon, une reprise chantée d'une pièce popularisée par Thelonious Monk. Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL, vous écoutez au 7e ciel Regard sur le cinéma, une émission qui pendant l'été se met en tenue d'été, donc version raccourcie entre midi et 1h. Ça se pose un autre ton, un autre rythme. Et si la première partie de l'émission était principalement consacrée à l'actualité cinématographique, c'est-à-dire aux films en salle, on peut dire qu'on continue encore dans le même temps puisque je vais vous entretenir un peu du film Potiche. Potiche, un film de François Ozon. Pour ceux qui connaissent François Ozon, je vais quand même pas m'apesantir sur sa production, mais disons que c'est un cinéaste qui a été particulièrement marquant ces dernières années dans le cinéma français, dans une frange très particulière, c'est-à-dire celle où un large public cinéphile peut se sentir convoqué, mais parfois ce public-là s'élargit, c'est-à-dire que c'est pas simplement les cinéphiles qui peuvent être sollicités pour aller voir des films de Ozon, parce que Ozon est un de ces rares cinéastes qui propose à la fois des œuvres cinématographiques assez travaillées sur le plan de la mise en scène, entre autres un travail sur les couleurs, un travail sur les costumes, sur le jeu d'acteurs, ce qui fait d'ailleurs en sorte qu'il se retrouve toujours avec une palette d'acteurs exceptionnelle. Qu'on pense à un film comme 8 femmes, réalisé il y a quelques années, qui réunissait des actrices toutes exceptionnelles dans la cinématographie française, soit Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Ludivine Seigné, Catherine Deneuve, Emmanuel Béard, et j'en passe, Daniel Darieux. Donc, Ozon est quelqu'un qui est assez rassembleur, à la fois par rapport au milieu du cinéma français. Donc, il sollicite des acteurs qui rarement refusent, tout simplement parce qu'il y a toujours un défi, toujours une surprise. Il y a un regard singulier dans son cinéma qui, sans doute, suscite l'intérêt des acteurs. Et puis, parfois, ces films aussi touche un plus large public que la frange de la cinéphilie. Il y a des films aussi qui sont plus pointus, qu'on ne voit pas au Québec. François Ozon, avant la sortie de Poitiers en salle, a réalisé deux films qui sont absolument invisibles, dont le film Le Refuge, même pas disponible en DVD, avec Isabelle Carré, qui est un film assez dur, plutôt dans une veine qui se rapprocherait de son dernier film qui avait été présenté en salle ici au Québec avant Potiche, et qui s'appelle Le temps qu'il reste, avec Melville Poupeau, où on voit le trajet assez tragique finalement d'un personnage qui est atteint d'un cancer et qui va mourir. Et c'est donc ce parcours de combattant, de personnage mourant qui essaie quand même de vivre et de bien vivre malgré les affres de la maladie que proposait Ozon dans ce film. Donc un film assez dur, et Le Refuge, c'était une sorte de récit qui pouvait fonctionner en miroir avec Le temps qu'il reste, soit celui du parcours d'une femme qui doit survivre d'une certaine façon au deuil de son mari, ou disons de son compagnon, qui est mort d'une overdose en début de film. Et elle est enceinte de cet amant décédé, et c'est ce parcours de survivance et de résilience, d'acceptation du fait qu'elle va donner naissance à un enfant issu d'une union avec un compagnon qui est maintenant mort. Bon, donc des films assez difficiles qui traitent de thèmes rarement abordés finalement dans le cinéma contemporain avec autant de franchises. Et le film Potiche est plutôt dans la veine de 8 femmes, donc c'est peut-être pour ça justement qu'il trouve plus facilement un distributeur ces années-ci au Québec, dans un contexte où la diffusion du cinéma français en particulier n'est plus ce qu'elle était il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années. Et en plus, même les films d'auteurs qui ont un succès et qui sont reconnus chez les spectateurs intéressés ici, ne trouvent pas nécessairement preneur chez les distributeurs. Donc je vais parler un peu plus avec précision de Potiche dans quelques instants.
Changer les draps depuis longtemps déjà. Quand je fais l'amour, je me demande ce que font les autres pendant ce temps-là. Quand je fais l'amour, je pense à ma femme et comment on était beau autrefois. Quand je fais l'amour, j'espère que ça coûtera moins cher que la dernière fois. Quand je fais l'amour, c'est dans des voitures et parfois au fond des bois. Quand je fais l'amour, j'aimerais bien les secours qui me sortent de là. Quand je fais l'amour, je me demande ce qu'il y a comme programme sur la 3. Quand je fais l'amour, je me demande combien d'hommes sont morts entre ces bras. Yeah.
J'oublie les prénoms, les prix, c'est pas si facile que ça. Quand je fais l'amour, je me demande franchement ce que je fous là. Quand je fais l'amour, j'envisage de me reprendre en main parfois.
Entendre Miossec, la chanson Quand je fais la chose, la crudité de Miossec, légendaire, ressort bien dans cette chanson et son panache et son sens du rythme et de la formule aussi. Miossec, une figure centrale de la scène musicale de Nantes en France. Donc Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL au 7e ciel, regard sur le cinéma, une heure sur le cinéma chaque semaine, entre midi et 13h tout au long de l'été. Pour le dernier quart d'heure, je vais parler, entre autres, en fait, je parle à l'instant du film Potiche de François Ozon, qui est toujours en salle au Clap. Le Potiche de François Ozon, c'est un film qui est dans sa veine, comme je l'expliquais à l'instant, la plus populaire. Un film qui a rassemblé autour de lui donc un casting assez flamboyant. Entre autres, Jérémy Régnier, un acteur qui s'est d'abord illustré dans le cinéma des Frères Dardenne et qui reste un acteur extrêmement présent de leur cinéma, donc qui est issu du milieu, disons, de la cinématographie belge et de la représentation des petites classes populaires en Belgique. Bon, c'est le sujet principal que l'on retrouve toujours dans les films des Frères Dardenne, et en particulier Jérémy Régnier a été l'une des premières figures à incarner cette réalité sociale dès le film La Promesse, qui était le premier film des Frères Dardenne connu, ou en tout cas qui a mené à leur reconnaissance internationale. Auparavant, ils œuvraient plutôt du côté du documentaire. Régnier, qui depuis, de plus en plus, s'illustre dans des films à grande échelle, donc qui touchent un plus large public. Et on voit bien l'influence du cinéma des Frères Dardenne et aussi le côté assez hétéroclite et hétérogène du cinéma de Ozon, qui inclut donc quelqu'un comme Jérémy Régnier dans son casting, en compagnie de Catherine Deneuve, de Fabrice Luchini, de Judith Godrèche, qui sont trois acteurs qu'on voit sur une base régulière. Évidemment, Luchini, on en parlait tout juste dans la première partie de l'émission avec Jean-Denis Côté, donc des figures centrales de générations différentes du cinéma français. Et François Ozon, à travers ce film Potiche, Gérard Depardieu aussi, évidemment. c'est comme oublier le tronc d'arbre qui cache les écureuils. Donc bon, il y a aussi Gérard Depardieu dans ce film. Donc, c'est un film qui fait le portrait assez truculent du milieu des années 70, ou même de la fin des années 70, à travers d'abord le personnage de Fabrice Luchini, qui incarne un industriel qui s'occupe d'une usine de parapluies industrielle qui refuse absolument toute condition de travail avantageuse pour ses employés, alors même que Luchini, de toute façon, de toute évidence, dans ce personnage, est d'un affairisme crasse, y compris dans ses rapports de famille, ses rapports de pouvoir au sein de la famille, puisqu'il est l'héritier par alliance d'une industrie qui appartenait au père de Catherine Deneuve, qui incarne sa femme dans le film. Et tout au long du film, c'est particulièrement délicieux de voir, si on veut, la décrépitude que prend le personnage incarné par Luchini, qui contribue largement, je pense, à la réussite de Potiche, ne serait-ce que par un charisme dans la malhonnêteté et dans, et dans la mauvaise foi du personnage, il y a quand même un charisme, un humour qui transparaît, qui forcément suscite, même à contrario, si on veut, l'adhésion des spectateurs. Donc, Potiche, c'est un film qui critique un peu un certain état supposément situé dans les années 70, des rapports de pouvoir, des rapports de force. Mais il faut avoir en tête que ce tableau de la bonne bourgeoisie française, les personnages principaux sont tous de la même famille. Judith Godrèche et Jérémy Régnier incarnent les enfants de Catherine Deneuve et Fabrice Lucchini. Donc c'est le portrait d'un clan qu'on nous fait, c'est un peu le point de vue de la haute bourgeoisie engoncée dans ses anciennes valeurs qu'essaie de proposer François Ozon, mais avec une distance évidemment que permet le fait de réaliser un film dans les années 2000 sur une réalité sociale, culturelle que l'on suppose inscrite ou implantée dans le milieu des années 70 en France et qui est soulignée par les costumes des personnages, par certaines allusions culturelles à la réalité de l'époque, ne serait-ce que par les programmes de télévision qui, à certains moments, sont présentés dans le film parce que les personnages les regardent. Donc, tout ce jeu de décalage assez facile, en fait, que l'on retrouve de toutes sortes de manières dans les médias de masse et dans le cinéma aujourd'hui, une façon de se moquer de la mode et de la manière même de filmer, si on s'en tient à l'émission de télévision qu'on voit dans Potiche à un certain moment, qui crée un décalage et crée une complicité avec le spectateur qui reconnaît comme ça des codes, des signes sociaux et culturels qui sont dépassés. Et donc, c'est toute cette complicité un peu facile, un peu démagogique qui fait en sorte, je pense, que Potiche peut toucher un large public, mais en même temps, ça va beaucoup plus loin, parce que derrière ce vernis ou ce glacis de la reconstitution historique qui passe par les costumes des personnages, les décors, les tapis, les rideaux, etc., qui rappellent les années 70, il y a aussi des discours tenus, entre autres, par le personnage incarné par Lucchini, qui montre bien à quel point ce film est d'abord un commentaire sur l'époque, ne serait-ce que parce que certaines répliques énoncées par Lucchini sont tirées tout droit de répliques et de discours fameux de Nicolas Sarkozy ces dernières années, que ce soit « Casse-toi, pauvre con » ou « Travailler plus pour gagner plus », dont des slogans un peu abscons qui, par ailleurs, sont tout à fait contemporains dans l'air du temps. Donc, qu'est-ce que propose Ozon à travers ce film? Ben, c'est non seulement une critique des années 70 dans ce qu'elle pouvait avoir de plus décalé, de plus ringard, parce qu'on sait à quel point les années 70, en particulier d'ailleurs dans le cinéma français, étaient marquées par une rupture très très forte entre le discours très réactionnaire de certains politiciens et de toute une classe dirigeante française dont la figure illustre serait peut-être Valéry Giscard d'Estaing, et par ailleurs une contre-culture extrêmement vive, extrêmement bouillonnante, qui s'exprimait aussi bien dans le cinéma, la musique, les arts plastiques que dans la rue, par les mouvements sociaux, évidemment dans un contexte post-68. Alors, ce qu'on voit à travers ce film, c'est combien ce décalage ou ce clash culturel des années 70 retrouve de son actualité aujourd'hui à travers toute une manière de remettre de l'avant dans une logique néolibérale des valeurs traditionnelles, des valeurs marchandes qui mettent de l'avant davantage l'appât du gain, la richesse, au détriment d'une tolérance à la fois au niveau des mœurs, mais aussi au niveau de la différence, des différences sociales. Donc, c'est une mise en scène du mépris et de la méprise que nous propose Ozon, une méprise en ce qui a trait à la manière dont Ozon décide de créer sa fiction, c'est-à-dire que ce film semble surgir des années 70, semble être une reconstitution des années 70, mais en fait, c'est tout à fait autre chose. C'est un film qui part de notre temps et joue sur cette méprise ou ce malentendu tout à fait complice avec le spectateur.
Des ouragans, la mélancolie qui vient.
On vient d'entendre un nouveau Miossec, La Mélancolie. Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL, vous avez écouté au 7e ciel, Regard sur le cinéma, une heure consacrée au cinéma de midi à 13h tous les samedis de l'été sur les ondes de CKRL. Vous allez maintenant entendre, si vous restez sur nos ondes, les après-midi musicaux de 89.1. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.
Plancher pour le Festival de la chanson de Tadoussac du 9 au 12 juin. Une 28e édition innovante présentée par le Mouvement des caisses des jardins en collaboration avec Hydro-Québec. Retrouvez ou découvrez le plus grand des petits festivals.